Voilà, alors ce cher Jean 23, on a vu la biographie, ce long cheminement de Dieu qui travaille cette âme, qui la façonne et qui l'amène à la charge suprême d'être le vicaire de Jésus-Christ sur la terre. Un jour, il y avait quelqu'un qu'il connaissait qui était à l'hôpital Santo Spirito, qui est juste à côté du Vatican. Il sort du Vatican, il va à l'hôpital, il rentre comme un grand, comme n'importe qui. Il va visiter la personne, puis il se trouve nez à nez avec la supérieure du monastère, qui est les sœurs du Saint-Esprit. Puis la sœur supérieure arrive, puis complètement vaquée. Je suis la mère du Saint-Esprit. Je sais pas, vous avez de la chance, moi je suis que le vicaire du Fils. Voilà. Donc, au moment de sa mort, il y a eu vraiment une. Ça a touché le cœur, je crois. C'est ce qu'on appelle le bon pape. Il y a quelques lettres que je vous lis ici qui sont très touchantes et qui montrent un petit peu comment il a su, par sa douceur et sa bonté, on verra ensuite comment il en est venu à ça, toucher les cœurs des gens d'un peu partout. Il recevra une lettre. Votre sainteté, deux juifs de France prient pour vous. À un moment donné, une petite fille très sympère. Je suis une petite fille de France, bien malheureuse parce que vous êtes malade. Je prie chaque matin pour vous afin que le bon Dieu vous laisse encore sur terre, car on a trop besoin de vous. Je continuerai à bien prier pour vous, le bon Dieu, et vous envoie toute mon affection de petite fille respectueuse. Monsieur qui écrit, ma femme est pratiquante, mes enfants aussi. Moi, depuis mon mariage en 1926, je n'ai plus prié. Mais aujourd'hui, croyez-moi, je fais une prière pour vous, pour votre établissement, car je vous admire. J'espère que Dieu me comprendra. Et une très jolie lettre ici, très sympa. J'étais très touché d'avoir lu dans le journal d'Extrême-Orient que vous étiez malade. Tous les jours, j'ai prié pour vous. J'aimerais que vous viviez jusqu'à ce que je sois grande pour pouvoir venir vous voir. Je veux avoir un nom de saint. Je suis bouddhiste, alors je ne connais pas beaucoup le nom des saints pour pouvoir choisir. Pouvez-vous me choisir un nom de saint que vous aimez? Je vous remercie beaucoup, votre enfant qui prie Dieu pour que votre maladie baisse. Plein de lettres comme ça, des florilèges de lettres qui ont été reçues au moment de la maladie et de la mort. Le monde entier était suspendu, j'allais dire, au chevet de Jean 23, comme si c'était le deuil de quelqu'un de la famille, comme ça. Les nouvelles passées de personne à l'autre. Alors, comment son âme n'est-elle venue à cette douceur? Comment Dieu a-t-il perfectionné cette âme? Je vous l'ai dit, on l'a vu, il y a toujours la nature et la grâce. C'est un vieux principe de saint Thomas d'Aquin. La grâce suppose la nature, et la nature a déjà quelque chose qui est reçu, qui est formé, mais la grâce va venir transfigurer ce qui est donné par la nature. Et ça, c'est important de voir cette mystérieuse collaboration entre la nature et la grâce, en comprenant bien que ce que fait la grâce, qui perfectionne la nature, mais qui la pousse à quelque chose qui est au-delà de ce que la nature est capable d'atteindre par elle-même. La charité surnaturelle n'est pas simplement une charité naturelle poussée à l'excès, à l'extrême, voyez-vous. Elle est d'une autre nature, parce qu'on passe dans l'ordre surnaturel, dans l'ordre de la grâce de Dieu, dans l'ordre de la vie divine. Et il se passe dans l'âme transfigurée par la grâce quelque chose qui est de l'ordre divin, que l'homme, malgré tous ses efforts, malgré toutes ses perfections, tout ce qu'il peut faire par ses propres forces, n'arrivera jamais à atteindre un seul millimètre ou millième de millimètre. L'œuvre de la grâce est une œuvre divine par nature qui vient perfectionner notre nature humaine, mais qui la pousse à quelque chose qu'on n'arrivait pas à atteindre par nous-mêmes. Alors il y a cette mystérieuse collaboration entre la nature et la grâce. On le voit très bien chez ce cher Jean 23. Sa nature, elle est déjà généreuse par le contexte familial, par le réalisme paysan dans lequel il a vécu, par une certaine vie dure dans laquelle il est obligé de sortir, de travailler. On met la main à la pâte très vite dans une ferme. Il fallait sortir les bêtes, il fallait cultiver le champ. Eh bien, ce réalisme qu'il a vécu a été vraiment d'un grand secours. Et cette humilité aussi qui venait de humus et humilité, c'est le même mot en latin, ça vient de la terre. Voilà, il y a quelque chose de terreux, de glaiseux, j'allais dire. On l'a tous comme ça puisqu'on est tiré de la glaise, mais on l'oublie souvent. Et donc il y a quelque chose qui est là, que tu as fait, mais c'est pas suffisant. Pour moi, c'est quelque chose qui me paraît déterminant, c'est qu'on oublie toujours de dire dans la vie d'un saint le moment ou la manière dont il fait l'expérience de sa misère et de sa pauvreté. Et quand il comprend qu'il n'est rien et que Dieu est tout, pas dans la tête, mais expérimentalement, viscéralement, quand il est conduit dans les eaux des gouffres des ténèbres et de la mort, et là où il n'y a plus qu'une chose, au secours, je coule. On voit les saints parfois avec les choses extraordinaires qu'ils ont fait, des miracles, des apostolats merveilleux, des ascèses surprenantes, une fidélité de prière et tout ça. Et alors on est complètement déconcerté parce qu'on dit mais c'est jamais à notre portée une chose pareille. On va jamais réussir une chose pareille. C'est trop grand, on les voit à 1000 km, grâce à la petite Thérèse, on a redécouvert cette chose-là. Mais c'est une pédagogie de toujours. La sainteté passera toujours par l'expérience de ma misère et par l'expérience de la miséricorde de Dieu.